Bonsoir à tous et bienvenue à tous à l'écoute de Ça se discute, le magazine mensuel des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Pas de doute, l'été est fini. Pour ceux d'entre vous qui rêviez de plages de sable blanc, de ruines antiques ou de rando nature en écoutant votre prof de maths vous démontrer le théorème de Pythagore, le ciel s'est chargé la semaine dernière de vous remettre les idées en place. La douche a été bien fraîche. En attendant que le temps s'adoucisse, on peut déjà rêver à rechausser nos chaussures de randonnée, rerouler son foulard et réenfiler sa chemise. Une nuit sous tente avec les copains et loin des parents s'annonce, me dit-on, pour très bientôt. Loin des parents ? Pas si sûr. Alors que le matin, les uns prennent le chemin du travail et les autres celui de l'école, parents et enfants sont présents dans le studio de Ça se discute pour répondre à notre question « Scoutisme et famille, le partenariat éducatif est-il possible ?» Pour répondre à nos questions et nous livrer la primeur de leurs révélations, nous recevons Caroline, déléguée des parents dans le groupe local de plaisance à Paris. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Valérie, qui est conseillère du groupe local de Poissy dans les Yvelines.
Bonsoir.
Et Louis-Marie, qui est père d'une éclaireuse dans le groupe local de Passy à Paris.
Bonsoir Paul.
Donc ce soir, les parents vont savoir s'ils manquent vraiment à leurs enfants. Les enfants vont tester les limites du dicton « loin des yeux, loin du cœur » et chacun nous dira ce qu'il cherche et trouve dans le scoutisme. À vos côtés, vous retrouverez la douce voix d'Alexis. Bonsoir Alexis.
Bonsoir.
Sur les réseaux sociaux, vous pourrez facilement suivre le live tweet de la Toile Scout au hashtag « Ça se discute ». Commençons tout de suite par une première question à tous les trois. Pourquoi est-ce que vous avez inscrit votre enfant ou vos enfants, dans le scoutisme ? Valérie.
Alors, d'une part, parce que moi-même, j'en ai fait, mais ma mère en a fait aussi, donc ça s'inscrivait, je dirais, un petit peu dans la tradition familiale. Ensuite, parce que ça avait eu une telle importance, moi, dans l'éducation que j'ai reçue, et j'avais envie de transmettre, justement, toutes ces valeurs, et puis de faire un pont aussi entre les générations, de pouvoir aussi... vivre la même chose, avoir des souvenirs communs sur des camps, des sensations, voilà. Donc ça s'est fait très naturellement. Dès qu'ils ont pu, ils sont allés, donc j'ai deux enfants, ils sont allés donc au Louveteau et puis ça s'est poursuivi. Et ça se poursuit tellement bien qu'il y en a un qui est responsable maintenant.
Caroline ?
Alors oui, moi j'ai été en fait responsable et BAU, mais je n'ai jamais été louvette ni éclaireuse. Et mon mari, lui, par contre, a été louveteau et a fait tout le parcours jusqu'à être responsable. Et c'est aussi une tradition familiale, puisque ma mère en a fait, et donc mes beaux-parents également. Donc quand Agathe a eu 8 ans, on lui a proposé, et il se trouve qu'elle a bien aimé. Donc là, elle a fait son quatrième camp l'été dernier.
D'accord. Et Louis-Marie ?
Bah, en ce qui me concerne, je suis un petit peu différent parce que moi-même, je n'ai jamais été scout, mais j'ai un père qui l'a été, puis j'ai surtout une épouse, moi aussi, qui a été très impliquée. On s'est connus jeunes et du coup, j'ai connu, elle était encore scout, elle était chef-taine éclaireuse, et elle avait l'air d'y prendre tellement de plaisir, d'y apprendre tellement de choses qu'elle a plus beaucoup de mal à me convaincre quand on a eu notre aîné qui a atteint les 8 ans, fatidique. Et donc, elle a surtout, à mon avis, espéré que Maxine accroche au scoutisme, ce qui a été largement le cas, heureusement. Et les deux autres, il y en a un qui a déjà suivi, et l'autre qui attend avec impatience d'avoir 8 ans pour pouvoir rejoindre ses grands frères et sœurs. Donc nous aussi, on va perpétuer la tradition familiale.
Avant de vous demander avec plus de précision comment vous considérez votre place dans le mouvement et autour du groupe local, on va tout de suite écouter un reportage d'Alexis qu'il a réalisé à l'Assemblée régionale de Val-de-Seine ce week-end.
Claire, équipière régionale VDS, j'ai été responsable à Boulogne avec une équipe parents coup de main qui a toujours vachement bien fonctionné et avec lesquelles on a toujours eu énormément de contacts. Et c'est vrai que ça a permis à la fois de bien comprendre les attentes qu'ils avaient, de pouvoir avoir leur avis sur des modifications dans nos projets, dans nos pratiques. De les inclure en fait dans la vie des unités.
Donc Sylvie, parent délégué et mère d'une... d'une aînée. Donc, le scoutisme est avant tout un état d'esprit qui se traduit effectivement par du bénévolat, mais qui est un état d'esprit et qui promeut un certain nombre de valeurs. Donc nous, en tant que parents, on adhère à ces valeurs et en plus, on est censé apporter aussi, participer un peu, même de loin, et toute la difficulté, c'est de savoir où est notre place. Mais nous, on a aussi à la fois un droit de regard et en même temps une aide à leur apporter.
Donc Anne-Sophie, mère d'une éclaireuse et d'un aîné, je voulais être impliquée davantage dans le groupe local et depuis, ça fait ma troisième année que je suis trésorière de groupe local. Donc j'essaye d'apporter du soutien, de l'aide.
Je suis Anne-Sophie Weiss, responsable à Colombes et équipière régionale Val-de-Seine. Ils peuvent aussi nous aider d'un point de vue logistique, par exemple conduire le camion, nous aider sur le matériel pour le camp. Mais peut-être une des plus grandes aides serait de nous remercier et de souligner qu'on a une action qui a un peu d'importance et que les enfants, quand ils rentrent chez eux après le camp, sont contents et en retiennent quelque chose.
Retour dans Ça se discute, le magazine des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Et pour les réactions de ce reportage, je laisse la parole à Alexis.
Alors, durant le reportage, on a entendu Sylvie dire être parent, c'est un droit de regard sur les activités et une aide à apporter. La question est toute simple. Paul a esquissé ce terme. Le partenariat éducatif, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que parent ?
Oui, Marie. Moi, en ce qui me concerne, je souhaite clairement rester en dehors de façon à ne pas interférer dans, enfin, avec ma femme, on pense la même chose, à ne pas interférer avec le message que l'équipe de chef de l'année décide de faire passer. Et je considérerais pour ma part que si je devais y pénétrer, c'est qu'il y aurait un problème. Et que ce serait mauvais signe parce que ça veut dire qu'ils n'auraient pas su gérer eux-mêmes leurs troupes. Ce qui, pour l'instant, s'est jamais produit, en ce qui me concerne. Mais vraiment, je souhaite pas interférer. Les seules choses, et ça a été dit dans le reportage aussi, que nous, on peut et voire on doit apporter, c'est un soutien qui est purement matériel. C'est financier, c'est logistique, c'est des bras pour conduire ou pour porter ci ou pour ranger ça. Mais sur la dimension intellectuelle et surtout spirituelle, précisément s'ils sont chez les éclaireuses ou chez les louveteaux, c'est pas pour que les parents fassent passer les messages et que les scouts et que les chefs répètent ce que disent les parents à la maison.
Valérie, je t'ai vu
oui,
tiquer légèrement.
Non, je tique pas et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Louis-Marie. Je voyais différemment le partenariat parce que pour moi, le scoutisme, c'est le complément de l'école et le complément de la famille. Et dans ce sens-là... il y a un partenariat, non pas de prendre la place les uns des autres, mais un partenariat de complémentarité. Enfin, c'est comme ça que moi je l'entends.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec cette année, voilà. Tout à fait. Oui.
Caroline, un mot peut-être ?
Oui, moi l'expression droit de regard, je trouve, est intéressante, parce qu'effectivement, on ne se sent pas toujours autorisé à trop intervenir auprès des chefs, à poser trop de questions. Et eux sont parfois un petit peu sur la réserve si on pose trop de questions. Par contre, je trouve qu'il faut que les parents aient conscience qu'il y a un engagement matériel, effectivement, pour aider à faire le transport, à ranger le local. Voilà, ça, je trouve que c'est bien que les parents en aient quand même conscience.
Donc, vous... pardon, Louis-Marie.
Juste rajouter un mot là-dessus, sur le fait que je pense qu'on a un peu un devoir aussi de rester un peu en retraite, parce que je pense que c'est pas facile pour les chefs, moi qui n'ai jamais été, et on le voit d'ailleurs, ils ont parfois, entre guillemets, des difficultés à gérer les parents, des difficultés à communiquer. Peut-être qu'on, effectivement, on a 20 ans de plus, alors on impressionne un peu, et du coup, si en plus on commence à donner notre vie surtout, je pense que ça facilitera pas leur travail, parce que j'appelle ça un travail, vraiment, leur engagement, vis-à-vis de nos enfants.
Avant de rendre la parole à Paul, je tiendrai à signaler que Sylvie, qui a été interrogée, est parent délégué. Statutairement, lors des assemblées locales qui doivent se tenir tous les ans dans chaque groupe local, des parents sont élus pour participer aux différentes instances démocratiques du mouvement, que ce soit l'assemblée régionale, donc au niveau de la région, ou au niveau de l'assemblée générale, donc au niveau de l'organisation globale des éclaireurs. L'objectif qu'on a aux éclaireurs est justement d'associer les parents à la conduite des activités. Ça ne veut pas dire que les parents se substituent aux responsables, mais bien que les parents doivent être partie prenante du projet éducatif et du projet qu'on met en œuvre avec les jeunes. Ce projet ne se déroule pas contre les parents, il se déroule avec les parents. Ça ne veut pas dire que les parents doivent gérer l'ensemble des activités. On est attaché en tant que responsable à garder, on va dire, une certaine jeunesse, une certaine coupure qui a un sens pédagogique. Apprendre aussi aux jeunes à vivre sans leurs parents. Mais il est important pour nous, en tant que responsables, d'être en constante relation avec les parents. Le mouvement ne se fait pas contre les parents, mais vraiment avec les parents. Et c'est pour ça que ce droit de regard, l'expression était intéressante. Elle est peut-être forte, mais elle traduit néanmoins l'aspiration qu'on a aux éclaireurs de mettre en place un vrai partenariat éducatif. Et ce terme partenariat va bien dans les deux sens. Voilà. Je rends maintenant la parole à Paul.
Alors justement, le partenariat dont parlait Alexis, est-ce qu'on le retrouve ailleurs que dans le scoutisme, sous d'autres formes, ou pas du tout à l'école par exemple? Est-ce que les modalités d'association des parents sont différentes ou pas? Caroline.
Oui, à l'école, il y a quand même les délégués de parents qui sont élus et qui assistent au conseil d'école. Donc là, il y a quand même un partenariat aussi éducatif. Enfin, moi-même, j'ai été élue avec une association de parents d'élèves. Après, notre rôle est assez limité quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas intervenir sur tout ce qui est pédagogie. Donc ça n'est plus sur l'organisation de la fête de l'école, quelques petits détails matériels. Voilà. Mais l'école aussi est demandeuse. Les enseignants sont quand même aussi demandeurs de parents qui s'investissent, qui ont des bonnes relations avec eux.
Moi, je pense que les responsables, pas tous, mais je pense que les responsables, malgré tout, sont demandeurs aussi de partenariat avec les parents. Avec toute la fougue ou la maladresse de la jeunesse aussi. Mais moi, j'entends souvent les responsables dire... Le soir, on aimerait bien que les parents restent un petit peu plus longtemps, qu'on puisse bavarder de la journée, on a telle interrogation, est-ce que tu crois que je peux téléphoner à telle famille? Après, ça dépend de leur maturité, ça dépend aussi de leur aisance aussi dans le rôle, dans l'engagement qu'ils ont. Il y en a qui sont plus confirmés que d'autres, mais je crois pas qu'ils aient envie d'écarter les parents. Je pense qu'ils ont envie de ce regard bienveillant des parents et de pouvoir échanger avec eux. Pas forcément, pas que les parents s'immiscent effectivement dans les activités ou autres, mais d'avoir ce regard bienveillant, d'être associé à la vie de l'enfant.
Louis-Marie, tu voulais compléter ou réagir ?
Réagir, oui, parce que pour moi la question est un petit peu saugrenue. Je passe ça sur des registres tellement différents, l'école et le scoutisme, que je vois pas de lien entre les deux, à comparer les deux choses, pour faire un peu de rhétorique, mais ça n'en est pas, c'est vraiment sincère. Moi, j'attends de l'école un enseignement, et entre guillemets, rien d'autre. Et c'est d'ailleurs un de mes grands sujets d'agacement du moment, c'est qu'on attend, je trouve, trop de l'école d'éduquer nos enfants. Non, ils sont là pour leur enseigner des choses, pas pour les éduquer. Or, le scoutisme, c'est pas d'enseignement, c'est de l'éducation, précisément. Et c'est là que, là, pour le coup, en matière d'éducation, je m'estime beaucoup plus là pour éduquer mes enfants que pour leur enseigner des choses. Et le scoutisme, il se place de ce côté-là. Et l'école est seule de l'autre côté de cette distinction entre éducation et enseignement. Et du coup, ce partenariat, je l'entends tellement différemment que j'ai du mal à faire une comparaison, tout simplement.
Alors, justement, sur la différence d'association des parents à l'enseignement ou à l'éducation. Caroline et Valérie, vous occupez des places assez particulières dans le mouvement. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, Valérie?
Alors moi, je suis conseillère du groupe local, c'est-à-dire que je suis présente pour aider les responsables, les conseillers, être là en cas de coup dur. Éventuellement aider à l'administratif. On a un trésorier qui s'occupe de toute la partie finance. Mais alors suivant les années, suivant les responsables, suivant leurs demandes, on peut être très très présent et puis être là à chaque début et fin de sortie, comme on peut effectivement être derrière simplement son téléphone. Et s'il y a une interrogation, s'il y a un besoin matériel, il nous appelle et puis on arrive.
Et auparavant, tu as été déléguée des adhérents ?
Alors moi, j'ai commencé comme déléguée des adhérents, effectivement. Et puis peu à peu, on se prend au jeu. Et puis peu à peu, alors je regarde Caroline, voilà. Mais peu à peu, en fait, j'avais envie de m'impliquer un petit peu plus. Je connaissais de plus en plus les responsables. Et puis le feeling, comme on dit, ça peut passer. Et en définitive, ben, je suis maintenant effectivement conseillère de groupe depuis quelques temps. Alors, je ne suis pas responsable d'eux, puisque c'est la région statutairement qui est responsable d'eux. Mais moralement, je me sens quand même responsable de ce qui peut se passer, de leur bien-être, comme celui aussi des enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que tout le monde puisse être en harmonie dans le groupe local. Hein. Et le relais vis-à-vis des parents aussi. Je fais le relais vis-à-vis des responsables, mais aussi le relais en tant que parent vis-à-vis d'autres parents qui peuvent aussi se questionner.
Caroline ?
Oui, parce que moi je suis déléguée des parents pour aller à l'Assemblée régionale, mais uniquement depuis cette année. Donc je n'ai pas beaucoup de recul sur ce rôle. Et par contre, on a effectivement, nous, deux CGL, enfin c'est un couple de parents, et ils font un travail formidable dans notre groupe local pour coordonner un petit peu tout le groupe local. Donc je sais que CGL, enfin conseiller de groupe local, c'est vraiment un rôle qui peut être très très important.
Je pense que suivant les demandes, on peut être très très en recul, comme on peut être aussi très présent. Ça dépend de l'équipe, ça dépend des années, ça dépend des parents aussi qui sont dans les unités. Et, en tout cas, c'est un rôle qui est plaisant.
Alors Valérie, tu parlais du bien-être des enfants. On va tout de suite écouter la carte postale des colonies de vacances que nous chante Pierre Perret.
Je vous ai créé une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Tous les ans je voudrais avoir un Kaili. Pour becter, on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle.
Retour au plateau de Sas Discoute, le magazine mensuel des éclaireuses et éclaireunionistes de France, avec ce soir deux jeunes qui viennent témoigner donc du partenariat éducatif, Agathe et Maxine. Tout d'abord Agathe,
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? T'es louveteau, louvette, éclaireuse, dans quel groupe?
Louvette, dans la meute de Plaisance, à Paris.
Et c'est ta combientième année?
Quatrième.
Quatrième année, d'accord. Maxine ?
Bonjour, moi je suis éclaireuse à la meute de au groupe de Passy.
Ouais. Et c'est ta combientième année ?
Je vais entamer ma deuxième année.
Ta deuxième année d'éclaireuse. Et avant tu as été louvette ou pas ?
Oui, c'est ça.
Combien d'années louvette ?
4 ans.
4 ans, d'accord. Vos parents, ils sont... Alors, juste avant on a eu vos parents en interview, mais... Vos parents, c'est quoi leur engagement aux éclaireurs, vous savez, ou pas? Ils font quelque chose ou pas du tout?
Moi, je sais que ma mère et mon père, ils s'occupent de faire les trajets, des transports, par exemple, pour le matériel.
Ouais. Ils font autre chose ou pas, tu sais, ou...
C'est pas vrai.
Tu sais pas après. Très bien. Et Maxime?
Moi, mon père, pas grand-chose, parce qu'il est... Voilà, et ma mère, elle l'aide des fois, mais voilà, enfin, pas beaucoup moins que les parents d'Agathe.
D'accord. C'est important pour vous que, vous dites vos parents, ils sont pas forcément là, etc. C'est important que vos parents, ils soient pas vos responsables, parce que les responsables, ils sont plus jeunes.
Bah, je pense que ça me ferait vraiment bizarre si mes parents étaient mes responsables, et je trouve que c'est mieux comme ça.
Maxime, t'en penses quoi, ça ?
Bah, moi non plus, j'aimerais pas que mes parents soient responsables, parce que les responsables, enfin voilà, ils sont, bah, c'est pas des parents, ils nous parlent, ils sont complètement différents, et puis on peut discuter avec eux comme on parle avec des amis, on discute vraiment de tout, et puis voilà.
C'est plus facile de discuter avec les responsables, Agathe ?
Non, moi je vois pas vraiment ce qu'il y a de différent à parler avec mes parents.
D'accord. Et toi, Maxime, donc tu vois une différence entre...
Je dis vraiment pas tout, mais voilà.
D'accord, très bien. Et alors justement, cette séparation, vous disiez, c'est important que ce soit pas les parents qui soient responsables, mais quand vous partez en camp, l'été, vous partez 2 ou 3 semaines, vous partez pendant longtemps sans voir les parents. C'est important pour vous, ça, ou des fois, il manque quand même un petit peu papa et maman ?
Bah moi, oui, généralement, mes parents, ils me manquent. Surtout dans les moments où on ne fait pas d'activité. Ou par exemple, on est seul dans sa tente et puis on s'ennuie un peu. Dans ce moment-là, mais je pense à mes parents, mais on leur écrit des cartes postales et puis ça va.
D'accord. Maxime ?
Moi, je pense surtout à mes parents quand il fait froid, quand il pleut, que tu n'as rien à faire, quand ça serait l'OP aussi. Enfin, y a pas, on s'ennuie pas souvent à l'OP, mais souvent il pleut, tu te demandes ce que tu fais là, tu commences à maudire, disons, un peu tout le monde parce que t'en as marre, mais à la fin tu t'éclates beaucoup et t'as pas trop de temps à penser à tes parents un peu, je trouve.
Mais le fait de grandir sans les parents, c'est important pour vous? Toute l'année, les parents, ils sont là, etc. Et là, voilà, enfin, le fait d'être pendant 2 ou 3 semaines vraiment sans voir les parents, est-ce que pour vous, c'est ça change rien, mais s'ils étaient là, ce serait mieux? Ou par exemple, c'est vous avez le sentiment d'être plus libre, ou c'est différent?
Bah, moi, je trouve qu'on est plus libre, par exemple, parce qu'à la maison, on n'utilise pas toujours, on ne fait pas la vaisselle, on ne prépare pas toujours à manger, donc on fait beaucoup plus de choses quand on est au scout.
D'accord.
Donc, je trouve qu'on est beaucoup plus autonome.
Ouais.
Parce qu'on doit se débrouiller nous-mêmes, c'est nous, oui, comme disait Agathe, c'est nous-mêmes qui gérons notre nourriture, nos gamelles, tout ça.
Et ça, ce serait pas possible à la maison ?
Bah, à la maison, c'est plutôt les parents qui s'en occupent.
Ah, vous pourriez faire la vaisselle et la nourriture aussi à la maison ?
Et à la maison, il y a une machine à laver, c'est beaucoup plus technologique. Ah. Non, moi, chez moi, j'aime beaucoup préparer les repas, donc ça me plaît beaucoup aussi de faire ça au scout.
D'accord. Et alors, les activités que vous vivez, soit sur l'année ou sur les camps, comment est-ce que vous en parlez avec les parents ? Qu'est-ce que vous leur racontez des activités que vous faites ?
Bah, généralement, moi, je vois surtout le bon côté.
Ouais.
Par exemple, souvent, ça se passe très bien. Et du coup, bah, je reviens à la maison en leur disant que c'était super. Et eux, bah, ils sont contents. Et du coup, bah, voilà.
D'accord, Maxime.
Bah pareil, moi, rarement, dans mes activités que je fais, il y a des séances où rarement j'aime pas trop. Souvent, je m'éclate et je parle souvent à mes parents en disant que c'était génial.
Mais qu'est-ce que vous racontez aux parents ? Vous racontez le fait, les jeux que vous avez faits, le fait que vous ayez dormi sous tente, les copains, les copines. Qu'est-ce que vous racontez aux parents ?
Bah, moi, je leur raconte tous les jeux qu'on a faits.
Ouais.
Et puis, je leur parle pas souvent de ce qu'on dort sous tente, parce que ça, c'est pas... On le fait à chaque fois.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas exceptionnel. Mais les jeux, ils sont chacun uniques, et c'est chaque fois au plus... Pas comme la fois d'avant. Donc, il y a toujours quelque chose à raconter.
D'accord.
Bah, j'ai rien à rajouter.
D'accord. Et pour finir, tout à l'heure, tu parlais en camp, on écrit des lettres aux parents. Vous écrivez beaucoup de lettres aux parents ? Vous avez d'autres moyens de communiquer avec les parents au camp ou pas ?
Bah, moi, à part le moyen des lettres, non. Mais par exemple, là, pendant mon camp d'été, comme j'étais en Angleterre, en fait, on a eu un peu de mal à se procurer des timbres. Donc, en fin de compte, j'ai pu envoyer qu'une lettre. Mais j'essaye d'en envoyer un peu plus pour leur donner mes nouvelles.
D'accord. Et ce serait quoi pour toi le bon nombre de lettres à envoyer ? C'est tous les combien de jours ?
Au moins 4 en 2 semaines.
4 ans de semaine, d'accord. Et toi, Maxime, comment
ça? Ben, nous, avec l'Explo, nos chefs têtes nous rendent. Nos chefs têtes nous rendent nos portables, donc on peut appeler nos parents, nos frères et tout ça. Et les lettres, j'en ai pas trop écrit ce camp-là, mais il y a un camp où vraiment j'écris presque tous les jours des lettres. Et voilà.
Uniquement à tes parents ou à d'autres personnes?
Ah non, mes grands-parents, ma cousine, quelques amis dont j'ai marqué l'adresse. Ouais. Et ma marraine n'aimait pas mon bras.
Et petite dernière question quand même. En dehors des camps, vous écrivez des lettres habituellement ou pas?
Bah moi, maintenant on a les adresses e-mail par exemple pour communiquer. Et puis c'est toujours plus rapide. Mais moi, j'ai une amie qui n'a pas d'adresse e-mail. Et comme elle habite assez loin, et ben on s'écrit.
Non, mais j'ai toutes mes amies qui habitent près de chez moi et on se voit en cours. Alors, souvent quand on correspond à l'étranger, y a les mails, mais c'est amusant d'écrire en lettres aussi.
D'accord, très bien. Alors pour cette fin d'émission, on va maintenant revenir avec les parents. On va avoir une petite transition musicale avec les copains d'abord.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuades, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.
Retour dans Ça se discute, le magazine mensuel des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, avec les parents qui sont de retour au micro, Louis-Marie, Valérie et Caroline. On a entendu Maxine et Agathe nous parler des cartes postales. Et Valérie, toi, tu m'en as beaucoup parlé hors antenne.
Oui.
Tu me disais que c'était important.
Alors, moi, je trouve ça important. Et c'est quelque chose, j'insiste beaucoup auprès des responsables, pas toujours avec du succès d'ailleurs, mais je trouve ça important que les enfants puissent effectivement écrire. Parce qu'on apprend à lire et à écrire et autant l'utiliser, et en dehors de l'école, ça me semble pédagogiquement intéressant. C'est important pour les parents parce que c'est quelque chose que l'on garde, c'est un souvenir, c'est une trace dans la vie des enfants puisque c'est leur camp, c'est une expérience de vie pour eux, et puis c'est une trace pour nous des souvenirs, quelque chose que l'on garde. Les enfants n'en ont pas toujours conscience, les responsables non plus, mais moi je sais que j'ai gardé les lettres des enfants du camp avec les mots d'enfants, avec les tâches, avec les fautes d'orthographe qui sont quelquefois amusantes, et puis des choses qu'on oublie et ça laisse trace.
Alexis, tu voulais réagir?
Oui, je voudrais apporter un double témoignage, un témoignage personnel et rapporter un autre.
Premier, c'est, je me rappelle, mon premier camp louveteau, la responsable me demandait d'écrire des lettres. J'avais pris une feuille, j'avais écrit « Bonne anniversaire, grand-père » sur 4 feuilles différentes. Et comme ça, j'avais envoyé une lettre, et parce qu'on avait des quotas de lettres à envoyer. Voilà, et c'est l'ingéniosité, on va dire, des 8 ans. Je le regrette beaucoup, grand-père, si tu m'écoutes. Voilà, désolé. Et je voudrais plus sérieusement revenir sur une expérience qui a été faite dans mon groupe local d'origine l'année dernière, où les responsables technologie oblige ont mis en place ce qu'on appelle un Tumblr. Un Tumblr, c'est un site internet assez facile où via smartphone, on peut mettre tous les jours une photo, enfin régulièrement, on peut mettre des photos. Et en fait, tous les jours, les responsables mettaient des photos en ligne du camp où ils expliquaient ce qui se passait. Et les parents allaient tous les jours, enfin très régulièrement, sur le Tumblr. Tant et si bien que quand les enfants sont rentrés de camp, ils ont raconté le camp aux parents. Et les parents savaient déjà ce qui s'était passé. Et les parents demandaient paradoxalement à ce qu'il n'y ait plus le Tumblr, parce que ça cassait quelque chose, parce que les enfants étaient frustrés, en fait, de ne plus avoir la primeur de raconter ça. Et parce qu'il y avait ce côté imparfait de la carte postale où on ne comprend pas toujours ce qu'écrit le jeune. Où, voilà, c'est un moment donné, les responsables travaillaient beaucoup plus sur le Tumblr et donnaient vraiment au jour le jour une explication du camp. Il y avait peut-être quelque chose qui était cassé, notamment dans la séparation des parents et des enfants. Voilà. Et je trouvais ça assez paradoxal et intéressant, et s'inscrivant d'ailleurs dans la démarche de simplicité qu'on a aux éclaireurs, de voir comment est-ce que sur la communication, on a pu essayer de communiquer en direct via smartphone avec les parents au quotidien, et puis revenir en disant en fait, revenons à des choses peut-être plus simples et gardons la primaire de la carte postale et du témoignage oral.
Puis moi, j'ai pu voir que quand on a plusieurs enfants dans le même camp, ils ne racontent pas la même chose. Parce qu'ils le racontent, enfin, c'est pas les mêmes anecdotes qu'ils racontent. Ils vivent dans le même camp, ils retiennent pas les mêmes choses. Donc leur lettre est différente. Alors, c'est vrai que ça demande un effort pour un enfant, effectivement, d'écrire la lettre, mais c'est une façon aussi de dire aux parents, merci de m'avoir envoyé au camp aussi.
Et justement, est-ce que les enfants, pour ce que vous pouvez en juger, vous disent tout? Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de secret qui reste, soit sur des bêtises, soit sur des choses qu'ils n'ont juste pas envie de vous raconter, parce que ça fait quand même 3 semaines et que c'est long à raconter, qu'il s'est passé beaucoup de choses? Louis-Marie.
Oui, nous, il y a un grand principe à la maison, c'est que ce qui s'est passé au camp reste au camp. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à appliquer ça. Et ça vide notamment aussi le vocabulaire. Il y a un petit peu de reprise en main à faire généralement quand ils rentrent. Parce qu'effectivement, les chefs ne parlent pas aux enfants comme les parents parlent aux enfants. Moi, je suis ravi si effectivement on ne sait pas tout. Et du coup, ça renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les cartes postales, sur écrire. Oui, c'est très bien d'écrire, parce que ce que je trouve formidable dans les camps, c'est que précisément les enfants font ce qu'ils ne font jamais ailleurs. Et moi, je souhaite vraiment que les enfants fassent toute autre chose et fassent encore ce qu'ils ne font jamais. Par exemple, la vaisselle, ça a été évoqué. La cuisine, même si c'est effectivement quand les enfants grandissent, ils participent. Et donc, écrire des cartes postales, ça contribue à ce principe-là, parce qu'ils n'écrivent jamais carte postale. Enfin, aussi, très rarement, en vacances, parce qu'on leur dit, tiens, il faut que tu écrives à ta marraine et à ta grand-mère, et voilà. Mais là, c'est agréable, parce que, justement, en camp, ils le font, c'est pas nous qui leur disons. Et donc, toute cette part de ce qu'ils font pas d'habitude, c'est leur univers. Et moi, je tiens vraiment à ce que ça la reste. Et c'est parfois un peu frustrant, mais en même temps, quand on apprend des choses, en général, on se rend compte qu'il n'y a rien à apprendre. Et du coup, on se pense qu'on ne rate pas grand-chose forcément sur les choses qu'ils ne veulent pas nous dire.
Et c'est frustrant, c'est-à-dire que c'est parce que tu aurais aimé être en vacances avec ta fille, ou tu aurais aimé en savoir plus quand tu dis que c'est frustrant de ne pas tout savoir?
Non, justement, ça peut de premier abord être frustrant de dire, tiens, les enfants ne nous disent pas tout, ils sont en train de construire leur jardin secret, et ils sont en train de m'échapper progressivement. Et ça, c'est... on est né à 13 ans, alors on a un petit peu de temps encore, mais ça vient très très vite, et ça commence bien sûr déjà, et heureusement pour elle, il faut qu'elle se construise. Mais le côté secret, n'est pas forcément facile à accepter. Et là, je trouve ça plutôt agréable que ça se passe dans un cadre qu'a priori, on a validé, on apprécie, un cadre... construisant, constructif, constructionnant, je ne sais pas, enfin bref, un cadre qui construit les enfants, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils y sont, tout simplement, c'est pour se construire, c'est quand même la raison numéro un, et se construire à côté de ce qui se passe à la maison.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Marie.
Allez.
En tant que parent, moi j'étais très frustrée, et je me suis raisonnée, parce qu'effectivement c'est toujours difficile, surtout peut-être, enfin pour le premier camp, peut-être au louveteau, en disant il a 8 ans et il part et je le lâche, je lui lâche la main quelque part. Et on a envie de savoir, d'être une petite souris, de savoir ce qui s'y passe. Mais c'est nécessaire et c'est aussi la clé du succès, je crois, du camp pour eux. Par contre, en tant que CGL, moi je sais qu'en réunion de parents, il y a des fois des parents effectivement très anxieux. Souvent, ceux qui n'ont pas fait de scoutisme et qui ne savent pas du tout ce qui va se passer, qui peuvent pas imaginer effectivement comment se passe un camp. Et là, je crois qu'il y a un rôle à jouer en tant que parent délégué, en tant que conseiller de groupe, de pouvoir d'abord les rassurer. Et puis, le fait d'aborder un petit peu la grille du camp, la grille d'activité, qu'est-ce qui va se passer, en sachant que ça va forcément bouger en fonction du temps, etc., permet aux parents de se projeter un petit peu, de se rassurer.
Oui, Marie.
On doit garder une part de mystère.
Hein. Oui, Marie.
Oui, je pense que le mystère est réciproque. J'ai pas du tout envie que les enfants sachent ce qu'on fait au mois de juillet pendant 15 jours, quand on est 15 jours sans enfants. C'est qu'un côté de nos activités qui nous regarde nous seuls.
On n'apprendra rien ce soir, alors. Est-ce que, pour ceux qui ont déjà été scouts, est-ce que vous redoutez que vos enfants fassent parfois les mêmes bêtises, vivent certaines choses?
Alors moi j'espère qu'ils ont pu faire plein de bêtises, toute proportion gardée, dans le cadre du scoutisme, parce que je pense que quand on le fait dans le cadre du scoutisme, on le fait, on a une impression de grande liberté, mais une liberté qui est contrôlée avec le regard bienveillant des responsables. Et c'est l'occasion ou jamais de faire toutes les petites bêtises qu'on n'a peut-être pas besoin de faire ailleurs. Et comme c'est dans un cadre donné, ça ne dépasse pas les bornes. Je pense que c'est... Voilà.
Enfin, moi, je me sens comme ça. Caroline ?
Oui, moi, j'ai l'impression qu'ils feront beaucoup moins de bêtises en faisant du scoutisme que s'ils n'en faisaient pas, notamment à l'adolescence, où ils vont avoir un projet à mener, ils vont se réunir... Et donc, ça va les occuper et les préoccuper. Et à mon avis, ça sera plus intéressant que de rester avec des copains de l'école,
oui,
où là, on va plus avoir envie de faire des bêtises.
Oui. Ce sont des bêtises raisonnables, moi, j'appelle. Enfin, ce sont des bêtises encadrées, quelque part.
Je voulais juste revenir sur les cartes postales et je trouve aussi que c'est formidable de pouvoir garder ces phrases et ces souvenirs, et ça écrit un peu une petite histoire familiale aussi. En général, ça crée une belle anecdote. Oui. Voilà, ce que l'enfant a pu écrire sur son camp, c'est vraiment super ça.
Merci pour vos réponses. Avant de se quitter, quelques annonces. L'équipe de Ça se discute, on est très heureux. Pour la naissance du petit Esteban, donc le fils de notre chroniqueuse habituelle qui n'était pas là ce soir. On aimerait vous rappeler que ce week-end, il y a protestant en fait, et que tous les auditeurs, on vous y attend de pied ferme. Et un dernier remerciement à tous nos invités pour cette première de l'année qui annonce une série d'émissions toutes plus enrichissantes les unes que les autres. À très bientôt, au mois prochain, sur les ondes de fréquences protestantes.
Et d'ici là, dans nos temples aussi.
Bonsoir.